que j'ai intitulé ce message d'aujourd'hui comme voir au-delà de ce qu'on peut voir. Je ne sais pas combien de personnes peuvent comprendre. Voir au-delà de ce qu'on peut voir. Si vous ne comprenez pas, je vais vous donner une illustration. Mais combien de personnes connaissent un périscope? Un périscope, c'est un instrument utilisé par des marins dans la sous-marine. Donc c'est un instrument qui est utilisé pour regarder dans la surface, au-delà de la surface de l'eau, et en étant sous l'eau. Donc, vous voyez, c'est possible de voir au-delà de ce qu'on peut voir. Mais vous allez comprendre, par l'étude que nous allons faire, ce que c'est de voir, de pouvoir voir au-delà de ce qu'on peut voir. Donc, tournez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 13. Genèse, chapitre 13. On va lire le premier 13 versets. Donc, Genèse, chapitre 13. On va lire le premier 13 versets de ce chapitre. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu de où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsor comme un jardin, jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et l'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans la ville de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Que le Seigneur bénisse ses paroles, sa parole. Et donc, nous voyons ce que c'est, le scénario est devant nous. L'autre l'accompagna, mais nous verrons dans un moment qu'il laisse son cœur en Égypte. L'autre, il est accompagné, l'autre, il accompagne Abraham, mais nous allons voir que son cœur, il n'est pas sorti d'Égypte. Notez bien le contraste entre Abraham et l'autre. Pendant un temps où nous allons étudier sur l'autre ensemble, nous allons certainement faire la comparaison entre ces deux hommes. C'est complètement en contraste, Lot et Abraham. Abraham marcha par la foi et Lot par la vue. Abraham était un homme gentil et il avait sa vue sur Dieu et dans l'éternité. Abraham, déjà, quand il marchait sur la terre, il avait son regard dans l'éternité. Mais l'autre était avide sur les choses du monde, les choses mondaines, et il était charnel. Et Hébreux, dans les épîtres d'Hébreux, nous lisons ainsi le verset 10. Je vais lire le verset pour vous. Car il attendait la cité. Il parle d'Abraham, bien sûr. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'autre a fait sa demeure dans une ville construite par l'homme et détruite finalement par Dieu. Abraham devient un grand homme de Dieu par lequel le monde sera béni, et à la fin, nous retrouvions l'autre avec tous ses biens détruits à Sodome. Et lui-même, on trouve l'autre habitant dans une grotte. La vie de l'autre était tragique. Donc, revenons à verset 7 de notre passage de texte. Ils disent qu'il y a eu querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phariséens habitaient alors dans le pays. Donc, les deux hommes, ils sortent d'Égypte, ils se trouvent dans ce pays, dans cette région, et il y avait une petite querelle entre des bergers de Lot et Abraham. Rassurez-vous que nous n'allons pas parler encore ce qu'on a parlé mardi soir dans l'étude. Nous avons étudié de ce verset, la querelle entre les bergers de Lot et Abraham. Mais dans cette situation, nous allons voir l'attitude d'Abraham, comment il agit, cet homme, et comment Lot il agit. Et Abraham, verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais notons que Abraham, il n'a pas demandé l'autre d'éloigner de lui, mais seulement, il devrait trouver un endroit convenable, puisque les deux, ils peuvent demeurer ensemble. Et les versets 10 et 11, regardons les versets 10 et 11, regardons bien le choix de Lot. Quel type de choix il fait? Lot leva les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'au sort comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc c'était évidemment, c'est un beau pays, très fertile. Et verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc, dans le commencement de verset 10, nous voyons que Lot leva les yeux. Il leva les yeux. Nous allons arrêter un peu sur cette phrase. Lot leva les yeux. Ce fut le début de la mort spirituelle de Lot qui a pris fin dans la honte. Quand Lot il a vu ce pays, et ça c'était le commencement de la mort spirituelle de cet homme. Nos yeux sont des portes par lesquelles la tentation assaille l'âme. Mais je pense que nous sommes tous d'accord au-dessus. Et nos yeux sont des portes ou des fenêtres par lesquelles toute souillure, toute chose, elle entre dans notre cœur. Jean dit ainsi dans sa première épître, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair l'orgueil de la vie et marcher par la vue est la cause de la plupart de nos échecs et de nos chagrins. Il en était ainsi au début. Et au lieu de marcher par la foi, quand on commence à marcher par la vue, ça c'est le début de tout chagrin, tous nos chagrins et nos échecs. Et nous connaissons cette partie dans le commencement de la parole de Dieu, dans le livre de Genèse. Ève vit que l'arbre était beau à manger et agréable à la vue. Ève, elle a trouvé le fruit. Elle a trouvé que l'arbre était beau à manger. C'est tout est visuel et agréable à la vue. Elle prit alors de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Genèse 3, 6. Regardez encore à Josué, livre de Josué, chapitre 7. À partir de verset 19 jusqu'à 21, le livre de Josué, chapitre 7, à partir de verset 19 jusqu'à 21, nous connaissons cette histoire de Achan, et c'était après la victoire de Jéricho, et cet homme, donc nous allons lire à partir de verset 19, de chapitre 7 de Josué. Josué dit à Achan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc, ce que tu as fait, ne me le cache point. » Verset 20, Achan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 21, « J'ai vu, notez bien, j'ai vu, dans le butin, un beau manteau. J'ai vu dans le butin, un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je l'ai convoité. » Il y a trois choses ici. J'ai vu, et ce qu'il a vu, c'était beau, selon lui, et il a convoité. Et je les pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Donc, nous voyons, c'est la convoitise des... Premièrement, c'est l'œil qui a vu et l'a convoité. C'est l'œil. Je me souviens très bien ce que mon moniteur m'a dit un jour quand j'étais en train d'apprendre à conduire. Il a dit, Jean-Pierre, tu conduis la voiture avec tes yeux. Combien c'est vrai? Même nous marchons avec les yeux. Où voulons aller, nos pieds nous amènent là-bas. Et quand on conduit avec nos yeux, pas avec les mains, pas avec les pieds. Donc notre vie est conduite la plupart du temps par nos yeux. L'œil et la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Dit Jésus en Matthieu 6, 22-23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, disait Job. L'expérience de l'autre n'était pas différente de beaucoup d'autres. Et en Proverbe 14, 12, nous lisons ainsi, « Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le psalmiste aussi, il prie à Dieu ainsi, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Quelle belle parole, quelle belle prière. « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. » Mais nous regardons beaucoup de choses tous les jours. Mais quelle valeur ces choses elles ont dans la vie, dans notre vie spirituelle. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Beaucoup de choses que nous voyons par nos yeux physiques, c'est souvent des choses vaines dans le monde. Mais quelle autre espérance nous avons sur cette terre? L'expérience de Lot n'était pas différente de beaucoup d'autres. Le regard de ces deux hommes était très différent. Et nous? Nous aurons la tendance de penser que nous sommes comme Abraham et pas comme Lot, n'est-ce pas? Quand nous sommes en train de comparer ces deux hommes, nous allons penser que je suis plutôt comme Abraham, pas comme Lot. Je ne pense pas que c'est toujours vrai. Même si parfois nous avons ce regard d'Abraham, c'est autant vrai que nos regards ressemblent à celles de Lot. Ça, c'est la vérité. Nous regardons aussi comme Lot parfois dans la vie, dans nos vies. Et si nous voyons dans ce passage, Lot leva les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Nous voyons dans ce récit d'Abraham et de Lot que tous les deux vont vers l'Égypte et à cause d'une famine qui sévissait dans le pays et tous les deux retournent de l'Égypte. Hein, le passage, notre texte commence ainsi. Donc ils sortent de l'Égypte. Regardons ensemble ce qu'il disait. Le peuple d'Israël a tourné avec moi en Nombre 11, Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 11, versets 4 à 6. Nombre chapitre 11, versets 4 à 6, nous allons lire. Nombre chapitre 11. À partir de verset 4, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et que ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ailes. Maintenant, nos âmes sont desséchées. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » Quelle misère! Quelle misère! Ce peuple, il était nourri par la manne céleste qui est tombée du ciel, donnée par lui-même, un repas céleste. Mais ce peuple d'Israël était misérable quand même. Il convoitait le poisson et les ailes, l'oignon, le poireau et le concombre. La parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tant qu'il y a encore de pensées douces de notre ancienne vie d'Égypte, dans nos cœurs, même les bénédictions du ciel doivent être amères. Si nous avons encore la pensée douce de notre vie passée, de notre ancienne vie de pécheur, même les bénédictions du ciel doit être amer sur le long. Nos yeux ne voient que la manne, mais ils ne peuvent plus voir autre chose que la manne. Mais quand Dieu lui donne la nourriture, quelle autre chose que nous avons besoin de voir? Quelle autre chose que nous avons besoin encore dans la vie? Sauver, la vie chrétienne est sans saveur pour vous. Il faut que vous cherchiez dans votre cœur s'il y a encore des douces pensées d'Égypte, de votre ancienne vie du péché. Parfois, on peut dire que la vie chrétienne, c'est ennuyant. C'est toujours, on va à l'église le dimanche, on lit la Bible, on chante les cantiques, on retourne. Ça, c'est la routine chrétienne. Mais si c'est le cas, si la vie chrétienne est sans saveur pour nous, nous devrions sérieusement poser la question si nous avons encore les goûts pour l'ancienne vie au profondeur de notre cœur. Dieu a vu quelque chose de très différent. Nous avons vu la vision d'Abraham, la vision de Lot, mais Dieu a vu quelque chose de très différent. Regardez le verset 13. Le verset 13 dit, « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » Nous avons vu déjà que le regard de Lot était différent de ceux d'Abraham. Et maintenant, nous voyons comment Dieu regarde les choses. Nous ne pouvons jamais comprendre la dimension de notre péché et nous comparerons en nous comparant aux autres pécheurs, car nous sommes tous pécheurs, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut comprendre que nos regards, quoi qu'ils soient, est très limité. Notre vue, c'est très, très limité. Dieu peut voir au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre. Est-ce que nous comprenons ça? Et notre regard, notre vue, est très limité dans ce monde, dans notre marche chrétienne, dans notre marche spirituelle. On est très limité. Et si on est encore myopique, c'est encore limité. On ne peut pas voir grand-chose. Mais il faut comprendre que Dieu voit au-delà de ce que vous pouvez voir. Dieu le voit très loin dans votre vie, dans l'avenir. Nous ne pouvons jamais comprendre... Abraham crut à Dieu et celui fut imputé à justice. Dit la parole. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, dit l'Écriture. Dieu sait ce qui est bon pour vous et moi. Dieu seul, il sait ce qui est bon pour nous. Mais on peut voir et on peut comprendre, et même notre compréhension, c'est très limité. Nous regardons les choses, nous jugeons bon ou mauvais par rapport à ce que nous avons vu. Mais Dieu peut voir au-delà de ce que vous pouvez voir, au-delà de ce que nous pouvons voir. Choisir de voir par les yeux de Dieu, c'est le meilleur choix qu'on peut faire dans notre vie. Choisir de voir par les yeux de Dieu, c'est le meilleur choix qu'on peut faire dans notre vie. Maintenant, vous comprenez peut-être cet instrument, ça s'appelle périscope. Le marin, il l'utilise pour voir dans la surface ce qui se passe dans la surface quand ils sont dans le sous-marin. Bien sûr, quand on est dans le sous-marin, sous l'eau, on ne peut pas voir grand-chose sans cet appareil. Donc, avec cet appareil, on peut voir ce qui se passe dans la surface de l'eau. Donc, la foi, on peut dire que c'est comme un périscope. On voit à travers de la vision de Dieu. On voit par la foi ce que Dieu il a pour nous. Et Abraham, c'est merveilleux à cette époque, à ce temps de l'Ancien Testament, Abraham, cet homme, il avait cette vision. Il avait la foi pour voir ce que Dieu il avait pour lui. Deuxièmement, examinons maintenant le séjour de Lot à Sodome. Notez les étapes de redégradation de cet homme trompé. Le verset 11 et 12. Il y a une redégradation dans la vie spirituelle de Job. Regardez avec moi le verset 11. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et l'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'autre habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il y a plusieurs choses à apprendre dans ces deux versets. J'ai noté 6, vous pouvez peut-être noter plus. Quand nous étudions la parole de Dieu, nous avons toujours les choses à apprendre. Et j'ai noté 6. Le premier mot, l'autre leva les yeux et regarda. Nous allons voir après en détail. Deuxième, l'autre choisit pour lui toute la plaine de Jourdain. Troisièmement, il se sépare d'Abraham. Quatrième, il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et cinquième, il habite à Sodome. Et six, il devient, quelque part, le juge même de Sodome. Et dans la ville, il habitait. Et septième, l'autre se mélange avec le peuple de cette ville de Sodome, en ce que ses filles sont mariées avec les hommes de Sodome. Il y a 7 points. Donc, premièrement, l'autre leva les yeux et regarda. L'autre leva les yeux et regarda. Mais nous allons voir avec 3 exemples les dangers qu'on peut faire des choses en regardant, par notre vision, quand on fait confiance à nos propres yeux, à nos propres vues, le danger lequel on peut rencontrer. Vous connaissez l'histoire de Samson dans la Bible, hein? L'histoire de Samson. Prenez le livre de Juges, chapitre 14, verset 3. Juges 14, verset 3. Cet homme, Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses dans le royaume d'Israël. Il a fait de grandes choses pour Dieu. Il a jugé Israël pendant 10 années. Il a fait des choses que personne ne pouvait faire. Mais pourtant, cet homme, il a tombé à cause de ses yeux, son œil. Regardez le verset 3, Juges 14. Dit, et son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il pas de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout mon peuple que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, les incirconcis. Regardez ce que Samson il dit. Et Samson dit à son père, prends celle-là pour moi car elle plaît à mes yeux. Prends celle-là pour moi, car elle plaît à mes yeux. Regardez encore à Juges 17, 6. Juges 17, 6. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Mais bien sûr, dans certaines versions de la Bible, c'est écrit « semblait bon » dans une autre manière. Mais je crois que ça, c'est la version Darby. Je crois que la version originale, ça parle des yeux, bien sûr. Et regardez ce que cet homme est là. Mais dans le livre des Juges, ça, c'était la phrase tragique. En ce jour-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il semblait bon. Chacun faisait. C'est une sombre histoire du peuple d'Israël. Chacun faisait ce qu'il semblait bon. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Même aujourd'hui, nous trouvons les gens dire ça me semble bon. Mais quel est le critère pour juger ce qui est bon ou mauvais? C'est nos yeux? C'est notre vision que nous avons, ou c'est la parole de Dieu? Quelle est notre vision? Notre vision est limitée. Et on est des pécheurs. Si on est des pécheurs, nos yeux peuvent voir mieux le péché que la sainteté de Dieu. Et Samson dit à son père, « Prends celle-là pour moi, car elle plaît à mes yeux. » Même aujourd'hui, les mariages sont faits par rapport à ce qu'il plaît aux yeux des gens. Cette fille, elle me plaît, ce garçon, il me plaît. Mais est-ce que nous regardons au-delà de ce que nous pouvons voir? Est-ce que nous avons la confiance en Dieu, la foi en Dieu pour voir, pour attendre ce que Dieu t'a préparé, Dieu l'a gardé pour toi? Ou tu es prêt pour prendre ce que frappe à l'œil? Un deuxième exemple de 2 Samuel chapitre 17. 2 Samuel chapitre 17, les premières 4 versets, ça parle d'Absalom, le fils rebelle de roi David, Absalom. Il y avait un homme qui s'appelle Achitophel, il donne le mauvais conseil à Absalom. Et Absalom, nous connaissons la fin de sa vie, combien c'était tragique. Mais lisons ensemble 2 Samuel, chapitre 17, premier 4 versets. Et Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, et je me lèverai, et je poursuivrai David cette nuit. » Il parle contre le roi. Et j'arriverai sur lui tandis qu'il est fatigué et que ses mains sont faibles, et je épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira, et je frapperai le roi seul, et je ramènerai à toi tout le peuple. L'homme que tu cherches est autant que le retour de tous. Tout le peuple sera en paix. Notez bien cette dernière partie. Et la parole fut bonne aux yeux d'Absalom et aux yeux de tous les anciens d'Israël. La parole fut bonne aux yeux d'Absalom et aux yeux de tous les anciens d'Israël. C'est triste, n'est-ce pas, qu'aucun ne peut voir les choses justes. Absalom, dans les yeux d'Absalom, c'était sage. C'était la bonne chose de tuer le roi. Le roi vint par l'Éternel. David, il était le roi d'Israël. Et cet homme, Achitophel, il donne ce mauvais conseil. Et pour Absalom, c'est absolument bon, sans doute. Et ce qui est encore triste, c'est et tous les anciens d'Israël, ils trouvent ça bon aussi. Et parfois, pas simplement moi, pas simplement vous. Et on peut tous tromper quand on regarde ce que frappe à l'œil. Quand on n'analyse pas, quand on ne cherchons pas la volonté de Dieu. Nous devrions chercher la volonté de Dieu et croire en Dieu et mettre notre foi en Dieu au lieu de mettre notre confiance à ce que nous voyons. Et troisièmement, il y a un autre homme, un homme de Dieu qui a fut chuté à cause de son regard inapproprié. C'est David. Et je lis pour vous de 2 Samuel 11:2. Et il arriva au temps du soir que David se leva de dessus son lit de repos et se promena sur le toit de la maison du roi. Et du toit, regardez bien, il vit une femme qui se lavait, et la femme était très belle à voir. David, premièrement, il ne devrait pas être où il était, car toute son armée, il était dans la forte bataille. Il était en train de battre les Philistins. Le roi, il était en train de faire son sieste, tranquille. Et quand il promène dans la hauteur de son palais, et il vit une femme qui se lavait, et la femme était très belle à voir. Et ça ressemble à la même chose comme Ève l'a pu voir dans le jardin d'Éden. Et David, il a vu une femme qui se lavait, et la femme était très belle à voir à ses yeux. Pour lui, nous avons l'exemple de bien d'autres personnes dans ce domaine. Le mauvais choix dans notre vie spirituelle est souvent fait par nos yeux et par ce que nous regardons. Nous connaissons tous cette situation dans notre vie. Nous sommes attirés par nos regards, de ce que nous voyons, de ce que nous regardons. Et encore une chose dans ces versets, versets 10 et 11, l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Le verset 11, la première partie de verset 11, l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Dans le verset, nous lisons que l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. La convoitise de l'autre était très grande. Quand il voit, mais Abraham il a simplement dit à l'autre que nous allons mettre les tentes un peu à part pour demeurer ensemble à cause de cette querelle qu'il y a eu entre les deux bergers. Mais le convoitise, nous voyons ici combien grand c'était le convoitise de l'autre. Il ne savait pas fixer les limites à sa vie. Poser des barrières dans une terre étrangère. Vous comprenez ce que je dis? Poser des barrières dans une terre étrangère. Avons-nous la barrière autour de notre vie? Est-ce que nous avons la barrière autour de notre vie spirituelle? Où nous voyons très grand dans le monde? La barrière contre la mode de vie de ce monde? Est-ce que nous avons la barrière contre la mode de la vie de ce monde? La barrière contre la philosophie de ce monde, la barrière contre les ennemis, l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? L'autre, il a pris tout le pays du Jourdain, mais il ne voyait pas de danger arriver. Il n'a pas fixé les limites à sa vie, il n'a pas fixé les barrières. La vie spirituelle, c'est comme un jardin. Notre cœur, il est comme un jardin. Nous devrions entourer avec des barrières, avec des murailles. Sinon, n'importe qui peut entrer, il peut sortir. Donc, deuxièmement, nous voyons ici dans ces versets, il se sépara d'Abraham. Deuxièmement, l'autre, il se sépara d'Abraham. Évidemment, c'est la prochaine étape dans la régression de la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. C'est la prochaine étape dans la régression de la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Séparé d'un autre chrétien. Séparé de vouloir être séparé des autres chrétiens. Le péché provoque la séparation des chrétiens avec les autres chrétiens. C'est le ruse du diable. Si notre amour pour les enfants de Dieu diminue, nous devrions faire une introspection de notre cœur. Si notre amour pour les enfants de Dieu se diminue, nous devrions faire une introspection de notre cœur. On devrait poser la question, mais pourquoi je n'ai pas l'amour que j'avais auparavant? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Pourquoi je suis plus collé avec mes amis du monde? Êtes-vous entouré par des enfants de Dieu dans cette vie terrestre ou avec... Avez-vous choisi de vivre parmi ceux qui maudissent Dieu? Parfois, nous pouvons trouver dans la compagnie des gens au travail ou à l'école ou ailleurs. On peut être en compagnie, on peut même rire des blagues, des choses qui sont dites contre Dieu. Mais nous devrions poser les questions. Mais nous sommes amis avec les enfants de Dieu ou avec le monde. Abraham a certainement senti la douleur de la séparation. Peut-être pas Lot, mais Abraham a certainement senti la douleur de la séparation. L'apôtre Paul a connu cette situation dans son ministère. Il dit dans l'épître aux Thessaloniques, « Car Démas m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Il écrit en Timothée, pas Thessalonique. « Car Démas m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent. » La semaine dernière, le frère Albert nous a parlé en détail l'amour pour le siècle présent. L'amour pour le siècle présent. Et l'autre, il avait l'amour pour le siècle présent, de son temps. Il a quitté Abraham. Il voyait le pays, mais peut-être il a vu le danger, mais il voulait faire un compromis. Il a pensé que ça va passer. Est-ce que le matérialisme affecte nos choix dans notre vie spirituelle? C'est une question que je pose ce matin pour nous-mêmes. Est-ce que le matérialisme affecte nos choix dans notre vie spirituelle? Dans notre vie spirituelle, qu'est-ce que ça nous affecte le plus? Est-ce qu'on pense que je devrais aimer mon Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme et tout mon être? Ou je pense que, voilà, si je fais ça, je vais perdre autant de mon argent? Et quatrièmement, nous voyons que, dans le verset 10 et 11, Lot dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Lot dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Aujourd'hui, nous qui vivons dans la grande ville comme Paris, avec sa banlieue, nous n'avons pas tous beaucoup de choix pour choisir nos demeures, pas loin de notre église locale. Mais je pense que dans le temps de l'église primitive, c'était le cas. Les gens, ils vivaient autour de l'église. Ils vivaient en communauté. Mais bien sûr, ce n'est pas possible aujourd'hui, mais nous sommes éloignés, nous vivons un peu loin. Certaines viennent de 45 kilomètres même, chaque dimanche, pour chaque réunion. Ça se comprend. Mais nous reconnaissons que c'est difficile. Vivons-nous en communion avec les enfants de Dieu? Mais aujourd'hui, même si nous sommes loin de l'église locale, nous avons beaucoup de confort. À l'époque, Abraham Lot, il voyageait sur les chevaux, ou sur les ânes, ou sur les dromadaires, les chameaux. Mais nous avons les voitures qui sont puissantes, ça ne prend pas beaucoup de temps pour visiter un frère ou une sœur, ou même pour venir aux réunions de prière le mardi soir. Mais qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? Avec tout ce que Dieu nous a donné, nous sommes normalement rapprochés avec le modernisme, avec tous ces malheurs, mais il y a des bénédictions aussi. Est-ce que nous utilisons tout ça pour réjouir dans la communion fraternelle, pour être près de l'Église, près du cœur de Dieu? Le psalmiste, il dit dans son psaume 84, je lis, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt qu'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Mettez cette verset dans la vie de Job. Cet homme, il a choisi de fixer ses tentes à Sodome. Et il n'a pas simplement fixé ses tentes, mais il a aussi choisi d'habiter à Sodome. C'était les tentes, mais nous devrions parler dans la langue que nous parlons aujourd'hui, il a construit sa maison. Il a pensé qu'il va vivre dans l'éternité dans cette ville de Sodome. La parole de Dieu nous instruit constamment de vous, nous protéger toute souillure du monde. Choisir de vivre avec le monde selon ses coutumes et ses habitudes. Comment un enfant de Dieu trouvera-t-il le bonheur dans un terrain étranger? Comment nous pourrions trouver le bonheur dans un terrain étranger? Nous savons très bien que le monde se sera détruit un jour. Mais on peut utiliser le bien que Dieu nous donne, les choses matérielles, périssables, que Dieu nous donne. Mais pourtant, nous devrions avoir un œil sur l'éternité, notre regard sur l'éternité. Et dans le psaume 1, nous lisons ainsi, « Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs, qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans la loi jour et nuit. » Mais pourtant, je pense que l'autre, il était entouré de tout ce type de personnes. Et un enfant de Dieu, il est conseillé de ne pas être là. Mais Job, il a construit sa vie au centre de cette société, dans cette communauté. Pas seulement ça. Et l'autre, quelque part, il devient le juge. Parce que quand nous voyons dans le chapitre 19, quand Éternel, il va détruire la ville de Sodome, et quand ces hommes, ils viennent pour prendre ces étrangers qui sont les visiteurs qui est chez lui, ils demandent de le faire sortir, mais Job, il essaie de faire le juge. Et certainement, Job, il a fait auparavant cette position de donner le moral à ces gens de Sodome. Mais réfléchissons, est-ce que les gens de Sodome et Gomorre, il était dans la situation pour comprendre ce que il peut dire. Et septièmement, l'autre se mélange avec le peuple de cette ville en Sodome, en ce que ses filles sont mariées avec les hommes de Sodome. Et on voit ici que l'autre, il s'est bien impliqué dans cette ville, dans cette société, avec ce peuple avec qui il ne devrait pas se mélanger. De nos jours, nous appellerons l'adaptation culturelle ou l'assimilation nationale. La famille de Lot a été bien acceptée par le peuple de Sodome. Elle a pu s'intégrer avec eux, intégrer complètement. Maintenant, il y a plus de différences. Et même Job, il a oublié de voir la différence. C'est pourquoi il a fait marier ses filles à ces hommes de Sodome. Et même sa position a changé. Il a oublié ses droits et la loi de Dieu. Et ses filles se mariaient avec les hommes de cette ville. Parfois, nous voyons combien un chrétien peut tout faire pour être accepté par le monde. Je pense que vous comprenez ce que c'est, parce que moi, je comprends tout à fait. Un chrétien, souvent, il fait beaucoup d'efforts pour être intégré dans la société, avec le monde. Parce que quand vous dites que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas accepté. Nous ne sommes pas acceptés dans le monde. Nous sommes regardés bizarrement. Ah, c'est des personnes qui sont venues d'une autre planète, ils ne vivent pas ici. Mais souvent, nous voyons que le chrétien, il fait beaucoup d'efforts pour être intégré, pour s'intégrer avec ce monde, par son apparence. Le chrétien, il fait beaucoup d'efforts avec son apparence. Il veut être en mode avec le monde. La façon de s'habiller. Sa manière de parler. On devrait parler d'une manière où tout le monde parle. On devrait avoir un appareil que tout le monde a. Sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière de vivre ressemble complètement aux gens du monde. C'est triste. En Matthieu 24, 38, nous lisons car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Matthieu 24, 38. Et l'autre, il n'avait même pas un témoignage au sein de sa famille. Nous connaissons le jour du jugement quand le feu tombait du ciel, la femme de Lot, elle a tourné parce qu'elle n'a pas pu quitter la ville, quitter les choses matérielles qu'elle a ramassées dans cette ville. Et nous connaissons qu'elle est devenue une pile de sel. Et quand il a parlé avec ses gens, ses beaux-fils, ils se moquaient de lui. On ne peut pas parler aux dernières minutes. Si nous devrions témoigner de Dieu, nous devrions faire toute notre vie. Sinon, les gens ils l'écouteront pas. Et tel était l'état tragique de cet homme, Lot. Et tout ça a commencé. Il leva ses yeux, il regarda à ce qu'il ne devrait pas regarder. Il devrait avoir le même regard comme Abraham. Abraham, il ne savait même pas où il devait l'amener. Abraham, il a cru et ça fut compté comme justice pour lui. Que nous devrions faire attention avec cet aspect. Que tout ce que nous voyons, ce n'est pas vrai. Tout ce que nous voyons, ce n'est pas comme Dieu le voit. Mais c'est mieux si on peut mettre notre confiance, notre foi en Dieu, et pour accepter ce que Dieu nous donne. Et Abraham, peut-être Abraham, il n'a pas tout vu. Il n'a pas tout compris, mais il avait une entière confiance en Dieu qui l'appelait. Et ici, nous sommes appelés. Lot et Abraham, tous les deux sont sortis de leur pays. Abraham, il a été appelé. Et Lot, quand on compare avec Ruth, dans l'histoire de Ruth et Naomi, Naomi a dit, ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Mais on ne trouve pas ça dans l'histoire de la vie de Job, de Lot. Il n'est pas dit que ton Dieu est mon Dieu et ton peuple c'est mon peuple. Il a regardé ailleurs. Et ça, c'était la cause de la destruction de sa vie, la perte de sa vie. Que le Seigneur nous garde, il nous donne la vision, le regard comme Dieu. Il veut que nous ayons. Donc, nous devrions regarder en haut sur Dieu qui nous a appelés, qui a nous sauvés, qui nous a sauvés. Que le Seigneur nous bénisse avec sa parole et aide-nous à mettre en pratique ces choses. Le Seigneur, il a dévoilé la vie de cet homme d'une manière puisqu'on peut apprendre de lui. Les leçons à éviter. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, quand nous lisons la parole, ta parole, nous comprenons une chose. C'est toujours mieux de faire confiance à toi. Seigneur, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, c'est des choses charnelles et Seigneur, nous ne pouvons pas voir au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Mais toi, tu vois toutes choses. Tu es le Dieu souverain. Tu connais notre passé, tu connais notre présent, tu connais notre avenir aussi. Tu as déjà un œil sur notre avenir. Seigneur, tu as un plan pour chacun d'entre nous et nous savons que tu nous conduis. Et si nous sommes les enfants obéissants à notre Père Céleste, et nous avons confiance que tu nous conduiras au bon port. Seigneur, seulement, donne-nous assez de foi pour tenir ta main, pour marcher avec toi, faire pas à pas avec toi. Seigneur, enlève tous les doutes que nous pouvons avoir dans ta bonté. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu gardes que de bonnes choses pour tes enfants. Seulement, aide-nous à être obéissants et mettre ta parole en pratique pour suivre tes commandements. Seigneur, nous te prions que tu œuvres dans notre vie, dans nos cœurs. Aide-nous à comprendre ce qui est le meilleur, de voir ce qui est meilleur, et pour la gloire de ton nom. Nous prions tout cela dans le Saint-Nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, et pour la gloire de ton nom. Amen.